Bonjour à tous, en tout cas. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un honneur. Du coup, comme il a dit David, ça fait 2 mois que je suis plus ou moins là, par-ci, par-là. 80 heures, c'est pas beaucoup non plus, mais sur 2 mois, j'ai l'occasion de découvrir différentes facettes de votre église. Et c'est vraiment un plaisir d'être là. Quelque chose qui m'a beaucoup touché de votre église, c'est l'intergénération. Oh là, je me suis compliqué un moment. Les différentes générations qui servent le Seigneur dans la même église. Voilà, je vais le dire comme ça. Moi, je n'ai pas forcément cette chance dans mon église, cette bénédiction dans mon église. Je vais à ICF Genève. Et à ICF Genève, il y a une population assez plus jeune. Mais je trouve vraiment beau de pouvoir avoir des personnes plus âgées comme des plus jeunes qui servent le Seigneur ensemble, qui ont cette même passion pour le voir agir dans Nyon. Du coup, merci pour votre service, merci pour votre accueil. Même si bon, je ne vous ai pas tous rencontrés encore. Mais... Voilà, moi, j'ai fait mon gymnase à Nyon, du coup, de savoir qu'il y a la frate à Nyon qui bénit cette ville. C'est beau pour moi aussi de savoir que vous prenez soin de cette ville. Aujourd'hui, du coup, on va continuer cette série qui est sur le cours Alpha. Mercredi, il y a eu le cours sur pourquoi Jésus est mort. Alors, je ne vais pas faire un cours, c'est une prédication, du coup, je ne vais pas tout expliquer, toutes les raisons pourquoi Jésus est mort. Dans la prière, je chantais que Dieu, il avait peut-être quelque chose en particulier pour vous dans pourquoi Jésus est mort. Du coup, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Mais, ouais, je chantais que... Qu'est-ce que je chantais? Non, bon, je vais continuer, je me dis des choses... Il y a juste un truc, merci à l'équipe de la louange. Le chant que vous avez chanté, le premier revient au cœur de la louange, c'est le chant qui m'a accompagné toute la semaine. Du coup, quand je l'ai entendu, j'étais là, ah, Seigneur, tu es bon, tu agis à travers nous. Alors je vous invite déjà à aller, si vous avez votre Bible, mais sinon c'est le premier verset, c'est dans Corinthiens, 1 Corinthiens 2. Et il y a juste 2 versets. Je commence par ces versets, parce que si vous êtes assez récent dans la foi, vous allez peut-être apprendre des nouvelles choses, et je l'espère pour vous. Pourquoi Jésus est mort? Vous allez pouvoir être enseigné, équipé. Mais si, comme moi, ça fait un moment que vous êtes dans l'Église, j'espère que vous avez une plus ou moins idée pourquoi Jésus est venu sur Terre. J'espère que vous n'allez pas trop apprendre de nouvelles choses, parce que si vous apprenez des nouvelles choses, c'est sûrement que j'amène des nouvelles hérésies, parce que ça fait 2000 ans que le message, c'est le même. Du coup, pourquoi j'aimerais vous prendre avec dans cette prédication, avec ces 2 versets, où Paul il dit dans les Corinthiens, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul lui-même dit que ce que lui décide et veut amener à cette communauté, c'est d'amener Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça son message, et ça c'est l'essentiel, c'est ce que je veux que vous retenez avant tout. Et il le dit un peu avant, il dit, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, donc nous aussi, pour qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi Jésus est mort révèle la puissance de Dieu. La croix de Jésus, c'est la puissance de Dieu. Et pour nous aujourd'hui, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie actuellement, mais des fois on s'attend à un miracle qui puisse venir, on prie pour que Dieu agisse, et je pense, amen, Dieu il agit encore aujourd'hui, c'est tellement bon. Mais je crois des fois aussi Dieu nous invite à regarder à ce qu'il a déjà accompli. Regarde à la croix, regarde, je suis mort une fois pour tout, je suis ressuscité, j'ai accompli. Et je crois vraiment que peut-être en vous imprégnant de ce message, Dieu va pouvoir aussi vous parler et il va pouvoir agir à travers votre vie. Alors là, c'était pour vous prendre avec, pour les personnes qui sont comme moi, des bons chrétiens depuis des années, où ce message, ça fait des années que « Ouais, Jésus, je sais pourquoi tu es venu. » Comme ça, je vous ai pris avec. Alors maintenant, on va aller dans... Oula, je suis très grand, je m'excuse, je vais un peu lever. Hop. Ça va, là, je suis mieux positionné. On va aller dans Romains, chapitre 3. Alors, ce que j'aime bien faire quand je fais des prédications, c'est prendre un verset, je le lis une fois, et ensuite, on le décortique un petit peu, et on regarde ce que Paul a à nous dire, ou ce que l'auteur a à nous dire, et après, il y a une sorte d'application pour nous aujourd'hui. Ce chapitre 3, c'est un verset qui était très cher à notre très cher réformateur Luther, qui était pour lui un des passages clés de l'Évangile, comprendre pourquoi, enfin, justifié par la grâce. Et du coup, le contexte dans le passage, c'est Paul qui explique, il y a les juifs, il y a les non-juifs, et en fait, tous sont concernés par ce message. Alors Paul commence par dire, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Amen. Alors, les quelques bouts que je vais aborder, c'est le péché privé de la gloire de Dieu, gratuitement déclaré juste, la grâce, et en terminant avec, dans ce passage avec la victime expiatoire. Alors, on va commencer avec le péché, du coup. Le péché, c'est cette notion tellement fondamentale à notre foi chrétienne. Elle définit notre rapport à Dieu, elle définit notre rapport à nous-mêmes et notre rapport aux autres. Si on n'a pas une bonne compréhension de ce qu'est le péché, on passe à côté de ce que Christ est venu faire pour nous. Le péché, à juste titre, il est souvent assimilé à des mauvaises actions qu'on peut faire. C'est pas bien de faire ça, ça c'est bien. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais je crois qu'avant que ça soit une action concrète morale, je crois que c'est avant tout, comme dans la Bible, c'est une séparation de Dieu. Le péché, c'est être séparé de Dieu. C'est Adam et Ève qui se tournent de Dieu. Ils lui tournent de dos pour vivre ce qu'eux veulent vivre. Ça dit que le serpent, il voulait Dieu à la place de Dieu. Du coup, Adam et Ève qui tournent le dos à Dieu et décident de vivre leur vie par eux-mêmes. Et Paul ici dit, c'est pas juste Adam et Ève, on a hérité de leur faute, non. Tous, on est concernés. Vous et moi, on est concernés. Tous, à un moment de notre vie, on a tourné le dos à Dieu. Et on a voulu faire par nous-mêmes. C'est cet orgueil qui est difficile des fois à discerner, qui est profond des fois, qui des fois nous surprend. Moi, personnellement, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait cet orgueil au fond de moi. Et Paul, il dit, on est tous concernés. Chaque être humain est concerné par ça. Mais du coup, on est tous concernés aussi par ce message de Jésus. Et là, Paul, il continue, il dit, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Moi, j'avais jamais pensé, je crois que c'est un des seuls passages où, dans le Nouveau Testament, en tout cas, où il dit que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Ça m'a surpris. Le mot gloire, en hébreu, c'est kadosh. Alors, je le dis comme ça, je peux dire à mon prof d'hébreu que j'ai dit de l'hébreu dans son cours, dans une prédication, et je m'entraîne en même temps pour mon examen de fin d'année qui arrive. Kadosh, c'est ce mot qui veut dire la présence, mais ce poids de Dieu, la présence de Dieu. C'est ce ressenti, c'est lourd. Pas péjorativement, hein, mais c'est vraiment ressenti lourdement. Et dans l'Ancien Testament, quand on dit la gloire de Dieu, c'est vraiment cette présence. La présence de Dieu qui est là. Et le péché, du coup, Paul nous dit, il nous prive de cette présence de Dieu. Adam et Ève, ils marchaient avec Dieu dans le jardin. Ils étaient en communion avec lui. Dieu, il venait le soir et il marchait avec eux. Et du coup, il dit, quand l'homme a péché, il a tourné le dos à Dieu, il a été séparé de Dieu et de sa présence. Cette présence de Dieu, cette gloire, moi, elle me fait aussi écho rapidement au peuple hébreu dans le désert, qui suivait cette présence de Dieu. On voit que c'est Dieu qui leur disait quand se déplacer, même quand ils étaient en campement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une photo un peu, enfin, c'est pas une photo, c'est une reproduction du campement du peuple hébreu, et vraiment la présence de Dieu était au centre. Et il y avait le campement qui était autour. Et ce qui est important, pourquoi c'était ça, c'est qu'ils valorisaient le lieu, le tabernacle, le Saint des Saints, là où il y avait la gloire de Dieu qui reposait. Mais contrairement au jardin, le péché amenait une difficulté pour cette cohabitation entre Dieu et l'homme. Dieu voulait venir parmi son peuple, il voulait habiter avec lui, mais le péché de l'homme rendait cette cohabitation compliquée, où il y avait des rites à faire, il y avait des sacrifices à faire, il y avait des rituels pour que l'homme puisse être purifié de ses fautes, pour être en présence de Dieu. Et même là, c'était une fois par année, un homme sur tout le peuple pouvait rentrer dans le lieu saint des saints. Vous imaginez, c'est vraiment cette présence de Dieu, elle était difficilement accessible. Le péché empêchait d'être accès à la gloire de Dieu. Elle privait le peuple de la gloire de Dieu. Mais là, du coup, on continue un peu et on voit que Paul dit tout d'un coup, ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement être gratuitement déclaré juste? Je pense que si on a une connaissance biblique, on se rend vite compte de quoi ça parle. Hein, ouais. Il nous déclare juste, on est libéré du péché, on est libéré de la condamnation du péché. Mais je crois que ce verset, il prend vraiment sens aussi dans le verset 25, qui dit « C'est lui que Dieu a décidé à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. » Ce mot victime expiatoire, c'est un mot qui est très chargé de sens dans la Bible. C'est un gros mot théologique qui a beaucoup de choses, il englobe beaucoup de choses. Au début de l'année, j'ai fait un exposé sur ce terme, c'est le mot kafar en hébreu, et j'ai fait 15 pages dessus. Du coup, c'est vraiment un mot qui il est très chargé, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je crois qu'on peut le comprendre assez facilement aussi. Victime expiatoire. L'expiation, c'est... Et là, je vais vous expliquer les différentes significations. Une des significations, c'est laver. C'est passer par-dessus en lavant. C'est le péché, du coup, était des Hébreux qui faisaient sacrifice. Dieu les purifiait de ce péché-là, il les lavait. Et quand il faisait ça, il faisait un rituel. Il tuait un animal. Ce n'était pas forcément un agneau, suivant la richesse de la personne. Mais en fait, le sang de cet animal allait le laver, le purifier. Mais il avait aussi une autre signification. Comment est-ce que ça a fait ? C'est qu'il y avait cette idée de substitution. Il mourait à la place d'eux. Il voyait cet animal qui n'avait rien fait, qui était tué un peu devant lui à cause de ses fautes. Et son sang, il prenait sur lui en fait les fautes. Du coup, ça c'est le premier sens un peu de la substitution, l'expiation. Où il meurt à la place d'eux et en mourant, il nous lave de nos fautes. Et Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il dit que Jésus est cette victime expiatoire, que Jésus est mort à votre place. Alors qu'on était pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a pris sur nous ses fautes. Il nous a lavé de nos fautes. Lui qui était pur, lui qui était saint, il a pris sur lui le salaire que nous, on méritait. Mais l'expiation, l'expiatoire, il y a une autre signification que je trouve qui, moi, me parle particulièrement. C'est le mot propitiatoire. Je ne sais pas si ça fait référence à quelque chose en vous, si vous avez une bonne connaissance du Lévitique, ce beau livre assez complexe dans la Bible, où le propitiatoire, c'est le couvercle de l'Alliance. Vous savez, cette alliance, l'arche de l'Alliance que le peuple déplaçait, qui était le symbole de la présence de Dieu. Et ce serait dans le lieu saint des saints. Et c'est ce couvercle qui dit, avec deux chérubins un peu, avec les ailes comme ça, qui se regardaient. Et c'était dit que c'était là où la présence de Dieu reposait. Là, il y avait la présence, la gloire de Dieu reposait là, et Dieu parlait à travers de cet endroit-là. Oui, c'était le lieu le plus saint sur terre. Dieu manifestait sa présence à cet endroit-là. Et ici, quand Paul dit que Jésus était une victime expiatoire, mais du coup, un peu ce lien avec la propitiatoire, on comprend que Jésus est aussi, en fait, représente ce couvercle de l'Alliance, de l'Arche, où Jésus est la présence de Dieu sur terre. Jésus est la gloire de Dieu sur terre. Il est ce lieu saint des saints, là où il y avait la présence de Dieu, ou qui était inaccessible pour le peuple hébreu. Tout d'un coup, Jésus vient et il est cette présence de Dieu. Vous imaginez pour les peuples juifs à l'époque, qu'il lit ça et dit « Ah mais Christ, il est cette présence-là. Il est ce Dieu manifesté sur terre. » Et du coup, Paul, il dit, à cause du péché, on est privé de la gloire de Dieu. Et là, on comprend que par Jésus, il est l'agneau qui prend sur lui nos fautes pour qu'on ait accès à cette présence de Dieu. Et il est à la fois l'agneau, mais il est à la fois Dieu lui-même, cette présence de Dieu. Il me semble, je ne sais plus dans quel évangile qu'il dit, mais où le voile a été déchiré, où la présence de Dieu, tout d'un coup, elle est accessible. On a accès à Dieu, on n'est plus privé à cause de nos péchés, puisque Jésus nous a libérés de la condamnation du péché. On a été justifiés, et tout d'un coup, vous et moi, on peut avoir accès à la présence de Dieu. Pourquoi Dieu est mort ? Pourquoi Jésus est mort ? C'est pour qu'on puisse avoir accès à Dieu, puisse avoir accès à sa présence. Et j'aimerais qu'on aille maintenant dans Colossiens. Colossiens, c'est chapitre 1. Et j'ai mis que la fin des versets, mais je vais lire un petit peu plus haut. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône et souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. Et là maintenant, c'est le verset que j'ai affiché. Et vous, qui êtes autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos mauvaises pensées et vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Je relis le dernier verset juste. Par sa mort, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Amen. C'est tellement beau ce que Christ a fait. On peut être devant la présence de Dieu et être considéré comme saint, sans défaut et sans reproche, par son sang. Parce que quand Dieu nous voit, il voit Christ, ce que Christ a accompli pour nous, et qu'il nous purifie, il nous lave. Et moi, dans la prière, du coup, quand je priais pour cette prédication, pour vous, par rapport à ce message, je sentais que Dieu voulait vous encourager à cette intimité avec Dieu. Dans cette situation particulière, il voulait vous encourager à dire, mais venez vers moi. Je suis mort à la croix pour que vous ayez accès à moi. Je suis mort pour que vous puissiez être réconciliés avec mon Père. Je suis mort pour ce que le péché causait, là, cette séparation. D'un coup, cette séparation n'est plus. Je veux être uni à vous. Et Jean a dit dans le chapitre 15 que « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dieu il nous invite dans une intimité, dans une communion avec lui, pour être dans un dialogue, dans un amour, et on partage. Et pour rendre un peu ce message aussi concret, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu expérimenter ces derniers mois, ou ce dernier mois plutôt, où le mois de janvier et février a été très compliqué pour moi. Je suis quelqu'un qui est très extraverti, très social, et de tout d'un coup d'être privé un peu des gens, mais aussi de devoir faire 4-3 mois de cours en ligne derrière mon écran dans ma chambre. Ça a commencé vraiment à m'user, au fond, où j'ai réalisé aussi peut-être que je mettais trop d'importance sur mes relations, où elles me nourrissaient peut-être trop, et que je venais pas assez vers Dieu pour ça. Mais vraiment, quand je l'explique, ça j'ai l'impression, c'est un peu particulier, mais d'avoir été une flaque pendant quelques mois. C'est cette flaque un peu où il n'y avait rien qui me motivait, il n'y avait rien qui me stimulait, où en fait je passais les journées juste les unes après les autres, où je regardais beaucoup moins des séries, tout ça juste pour passer le temps. Et j'étais vraiment fatigué, j'étais démotivé. Et je voyais mon semestre qui allait arriver, mon plus grand semestre de mon année, de mes 3 ans, où j'ai un travail de bachelor, j'ai des examens, en plus de tous mes devoirs et mes cours. Et j'étais, mais Dieu, comment est-ce que tu vas faire pour ce semestre? Comment est-ce que je vais faire? J'ai l'impression d'avoir jamais été fatigué, autant été démotivé de ma vie. Et là, je dois faire une des plus grosses épreuves de ma vie, niveau travail. Et le truc, c'est qu'en plus d'être démotivé, c'est vrai que j'étais freiné. Je sentais que cette paresse, c'est ce péché qui me privait de la présence de Dieu. Où je laissais cette paresse, cette procrastination me priver de Dieu. Et pendant des mois, c'était rare les temps que je prenais avec Dieu. C'était pas commun. Mais je faisais cette prière des fois en demandant, moi, j'étais à Dieu, j'ai besoin de toi, je sais que c'est pas normal ce que je suis en train de vivre, je sais que c'est pas ce que tu veux pour moi, viens m'aider. Et un soir où j'étais dans mon lit, je m'étais déjà posé, j'avais mis mon attel sur le côté, j'allais m'endormir, c'est toujours cette parole qui me vient un peu en esprit, et honnêtement c'était pas un truc très spirituel, hein. C'était genre, j'ai juste entendu ça, j'étais là, enfin entendu, j'ai pensé à ça, j'étais, ah peut-être c'est Dieu, peut-être c'est pas Dieu, c'était, prends 20 à 30 minutes par jour, et Dieu va t'aider à passer ton semestre. C'était assez simple, j'étais bon, t'es à moitié fatigué, t'es genre, je vais pas m'en rappeler demain. Du coup, je l'ai vite écrit sur mon attel, dans les notes, j'ai éteint mon attel. Et le lendemain, je me réveille, et cette parole, elle m'habite toujours. Je suis là, ah, c'est bizarre, ok. Même sans regarder mon attel, j'étais là, ah, je sens, peut-être qu'il y a Dieu derrière ça, peut-être qu'il est derrière cette parole. Et du coup, je sais pas pour vous comment vous vivez votre intimité avec Dieu, mais des fois, t'as l'impression de parler à un mur, et des fois, tu sens la présence de Dieu. Et Dieu, il m'a fait cette grâce que je puisse ressentir cette présence quand j'ai commencé à prendre du temps avec lui. Du coup, en prenant le temps de prière, il y avait cette louange qui naissait dans mon, qui grandissait dans mon cœur, cette intercession pour mes amis, pour ma situation, pour ma famille, pour mon église. Et tout d'un coup, en prenant du temps avec Dieu, tout d'un coup, je sentais son cœur, son amour pour moi. Et 20 minutes par jour, je me disais, 20 minutes, je peux le faire tous les jours. 30, pas toujours dans mes journées, je peux placer 30 minutes. 20 minutes, j'ai pas trop d'excuses. Et en fait, ça m'a motivé aussi le fait que j'avais plus trop d'excuses, parce que ça, je pouvais le faire. Et j'étais un peu entre moi et Dieu, devant Dieu, je crois que, ouais, Dieu, je peux classer 20 minutes, c'est un épisode d'une série courte, je peux le faire. Ou même, c'est un trajet Genève, là où j'habite, enfin, j'avais plus trop d'excuses. Et c'est vrai que ma situation n'a pas changé, même les échéances sont plus proches que jamais, mais ça fait un mois de plus que j'ai fait du télétravail pour mes cours, mais pourtant, je sens que cette présence de Dieu, cette intimité avec Dieu, elle m'a nourri, elle m'a donné de la force, elle m'a donné une envie de vivre. J'étais pas dépressif, je pense, mais il y avait une part un peu de ça où je sentais que si je faisais pas gaffe, je pouvais glisser rapidement peut-être dans une négativité qui allait m'entraîner dans quelque chose de pas bon. Et tout d'un coup, la présence de Dieu qui habite en nous, qui habite en moi, elle a commencé à me nettoyer, à me purifier. Et mes pensées ont commencé à changer. J'ai commencé à voir cette situation différemment. Mais ça, c'est possible. Pourquoi ? Parce que Christ est mort à la croix pour moi. Il a vaincu le péché. Il m'a purifié. Je peux paraître aujourd'hui dans ma chambre, en me levant, en me couchant, même aux toilettes ou je ne sais pas où, je peux paraître devant Dieu, saint, sans défaut et sans reproche, par Christ. Et si je mets ma foi en lui, je peux avoir accès à lui. Et j'aimerais vous encourager à ça, pour cette semaine qui arrive, de venir vous reposer sur cette parole de Dieu, de venir vous reposer sur cette puissance de Dieu. Christ est mort pour vous. Christ est mort pour toi. Approprie-toi cette parole par la foi. Paul dit, c'est par la foi qu'on a accès à ça. Et j'avais cette parole un peu de... J'avais cette image dans la prière que vous puissiez être ces tabernacles vivants. C'est que vous puissiez être des tabernacles qui vous déplacez sur cette terre et que vous puissiez chérir cette présence de Dieu. Parce que quand on lit le Lévitique, personnellement, il y a plein de rituels et tout, mais il y a quelque chose qui ressort, c'est « Oh waouh !» C'était important pour eux, la sainteté de Dieu. C'était important pour eux, la présence de Dieu. C'était important pour eux, cette relation avec lui. Il y avait beaucoup de choses à faire, mais il y avait vraiment une envie de prendre soin de cette relation aussi. Et j'aimerais vous encourager à vous aussi de chérir ce cadeau que Dieu vous a fait, de chérir cette réconciliation que Dieu vous a fait. Demeurez en Dieu. Prenez du temps dans la prière. Grandissez dans votre intimité avec lui. Et je crois vraiment qu'à travers ça, vous allez pouvoir vivre des victoires dans votre vie, vous allez pouvoir vivre, peut-être vivre cette situation différemment avec lui. Alors je vais clôturer en priant. Seigneur Jésus, merci avant tout pour ta parole qui nous accompagne chaque jour. Merci pour ta parole qui est là et qui nous transmet ta volonté, qui nous transmet ton cœur, qui nous transmet ce que tu veux nous dire, Jésus. Et merci parce que cette parole, elle est vivante. Tu viens nous rejoindre, il y a quelque chose qui se passe quand on se l'approprie, Seigneur, ta parole. J'ai écrit, j'aimerais te demander que tu puisses nous aider à nous tous, et moi le premier, Seigneur, à demeurer en toi dans cette période, à avoir nos yeux fixés sur toi. Que tout puisse être centré sur toi, comme ce premier chant de louange disait. Qu'on puisse apprendre à demeurer et que ça puisse nous transformer, Jésus. Qu'on puisse prendre soin de ce don que tu nous as fait. Qu'on n'attende pas forcément quelque chose d'autre que tu puisses faire. Mais qu'on puisse se contenter déjà, avant tout, être reconnaissant de ce que tu as déjà accompli, Jésus. Tu nous as donné le plus beau cadeau, qui est ta présence, une intimité avec notre Père. Seigneur Jésus, transforme-nous en profondeur. Équipe-nous. Et qu'on puisse être témoin dans cette ville, témoin dans notre entourage. Qu'on puisse amener cette vision différente. Oh, je tombe, désolé. Désolé, Jésus. Oh là là. Qu'on puisse amener cette vision différente, cette perspective nouvelle, Seigneur. Parce que si ce n'est pas nous, les chrétiens, qui amenons cette nouvelle perspective, qui va le faire ? Si ce n'est pas nous qui amenons l'espoir sur cette terre, qui va le faire, Seigneur? Si ce n'est pas nous qui prions pour cette situation, qui va le faire, Jésus? Alors donne-nous ce cœur nouveau, donne-nous cette nouvelle espérance, donne-nous cet amour pour notre prochain, donne-nous cette joie, qu'on puisse être des témoins pour toi, qu'on puisse être ces tabernacles vivants sur cette terre, Jésus. Je prie ça en ton puissant nom, Jésus. Amen. Amen. Alors, je crois qu'il y a un temps de louange maintenant, en tout cas de musique, d'accompagnement. Et je vous encourage vraiment à vivre ce temps dans la prière avec Dieu. Moi, je vous encourage à demander à Dieu, « Père, rejoins-moi. Rejoins-moi, Père. Je veux te connaître. Je veux cette relation, je veux grandir, je veux me reposer sur toi, je veux être fixé sur toi, Christ. » Et c'est par la grâce, du coup, vous avez accès à ça. Ce n'est pas par votre manière de faire plus de choses, j'ai besoin de régler toutes ces choses-là avant de... Non, aujourd'hui, maintenant, assis sur votre chaise, vous pouvez commencer ou recommencer ou continuer cette intimité avec Dieu qui va vous transformer, qui va vous changer en profondeur.